On a un travail sur la superposition, sur l'articulation des temps et une fabrique du récit, une refabrique du récit. Puisque quand on regarde bien l'opéra, au départ, on est décontenancé, c'est normal, vu les récits qui se superposent. Et progressivement, on arrive vers une unité de temps. On perçoit en finale une unité de temps.
Oui, peut-être. C'est vrai que le personnage de Vautrin, c'est l'incarnation de l'ambiguïté. C'est une des caractères le plus fondant de l'être humain. Ma question, c'est à vous, mais non, c'est est-ce qu'il y a une unité de temps? Donc, c'est évident que la réalité, ce qu'on appelle, ou la plupart des gens appellent vérité ou réalité même, ça n'existe pas. Les réseaux social network, mais c'est quoi ça? Social de qui? De quoi? Il y a des personnages tristes et solitaires vis-à-vis d'un écran de plastique ou quoi, qui parle avec des gens qui n'ont pas une consistance physique. Moi, je ne veux pas critiquer Internet, moi, j'utilise tout le temps. Mais il faut se rendre compte que les gens, ils s'appuient sur ça. Alors, la mise en abîme du récit, ce n'est pas seulement une idée intellectuelle. C'est la visionnarité de Balzac, non, qui voit. Moi aussi, je l'adore, Balzac, parce que je le sens très proche. Je le vois même dans les personnes qui marchent dans cette petite ruelle là où on est maintenant. Moi, je vois déjà dedans, au-delà, et je pense, mais cette fille là qui mange le sandwich, elle vient d'un rendez-vous, elle a une espèce de petite bourse là, peut-être que. Donc, tu imagines des histoires derrière, des vrais, des véritables êtres humains derrière, et c'est pas ce qu'on voit, et c'est comme ça pour tout le monde. Sauf que, la majorité des gens, de la masse, ils ne se posent pas ces questions-là, même parce qu'ils ont peur. Donc, ils essaient de faire la distraction, de participer à la distraction de masse, non? Plutôt que la destruction, la distraction de masse. Qu'on ne veut pas savoir, on ne peut pas penser, on n'a pas le courage de penser. Et ça, c'est la vraie, la chose, la recherche, la véritable recherche et l'aventure et le risque aujourd'hui, c'est d'investiguer ce problème-là. Évidemment, là, le récit dans cet opéra possible qu'on voit, on croit de voir dans l'aristocratie de la restauration décadente avec le nouveau pouvoir de l'argent parvenu à riviste du baron Nucingen, que tout le monde savait, c'était Rothschild. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples, à partir de Berlusconi jusqu'à Trump, en passant par Soros. Donc, la spéculation financière s'emparait de toute la société qui compte, disons, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui manipulent l'argent. Et ça, c'est très moderne. Et ça, c'était vraiment fixé par Balzac de façon extraordinaire. Donc, cette réalité-là, c'est un peu la projection du projet fou d'un prolétaire, d'un sous-prolétaire, comme un forçat évadé, super cultivé, qui avait lu Rousseau comme Balzac, donc c'est une espèce d'alter ego de doppelganger de Balzac, à mon avis c'est assez évident, qui était justement coupé en deux, non? D'un côté, il était, sa formation c'était une formation plutôt, aujourd'hui bon, on ne peut plus même pas dire ça de gauche, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que ça doit faire la gauche, mais disons fourieriste, rousseauiste, mais justement après la révolution qui est partie comme révolution, a fait rouler la tête de père et de Dieu, et s'est terminée avec un empire, une dictature. Donc ça, déjà là, et ça le dit Balzac, il dit, ah bien, je vous explique l'histoire française en deux mots. On est parti des idées de libération de l'homme, on est terminé avec un empire en passant à travers le sang de la terreur. Et ça, c'est Balzac le dit. Donc lui, il était évidemment très déçu. Et en même temps, il était fasciné par le luxe, par les hôtels privés, les vêtements, les tableaux, la bonne cuisine, évidemment. Mais de l'autre côté, il avait cette capacité analytique monstrueuse. Alors, le personnage de Carlos Herrera, qui est Vautrin déguisé en abbé, qui l'a tué, justement, il a volé son identité. Il est protéiforme, il n'a jamais une identité. C'est pour ça que je peux pas vous dire si à la fin on arrive à une unité, parce que moi je veux pas l'unité. C'est pour ça que c'est difficile de vivre, d'ailleurs. Et donc, lui, dans le voyage in fiacre, c'est un peu le noyau de l'opéra, et c'est la tincelle qui m'a lancé vers Vautrin, qui m'a fasciné d'une façon très profonde, et qui m'a obligé à essayer ce pacte narratif, qui peut-être c'est une folie aussi, la mienne, je ne sais pas, mais sûrement la folie de Vautrin, c'est évident. C'est une espèce d'hallucination pendant le voyage avec Lucien de Rubempré vers Paris, où il lui propose un pacte faustien, il est faustien, et il dit « Je t'ai péché, tu seras ma créature, moi je suis l'auteur, tu seras le drame ». Donc il vit par procuration d'un sous-prolétaire qui est un forçat évadé, moche, sale, vieux, à travers le corps d'un beau jeune homme, noble de Provence, blonde, mince. Donc à travers son corps, en vampirisant tout ce qu'il ne pouvait pas être. Et donc là, il y a aussi l'autre côté de l'opéra que je trouve très très important, c'est le rapport entre père et fils. Et maintenant, une crise totale de transmission d'informations fondamentales entre générations, qui était un peu le même drame qu'on a vécu, nous, de ma génération, par rapport à la génération précédente. Parce qu'on n'a pas eu un véritable passage de témoin. Et je pense que la mort de Maderna, c'était un drame pour nous, parce que lui, il était très, très généreux, et probablement, c'était la personne qui aurait pu faire ce passage. Bon, bref, le récit qu'on croit devoir, c'est une espèce de projection hallucinatoire de Vautrin, déguisé comme abbé, dans le voyage en fiacre. Donc lui, il a son projet fou de quelqu'un qui vient de banlieue, si on veut dire comme ça, mais encore pire, au niveau de position sociale, qui dit, bon, je vais à la conquête de la capitale, de l'argent, du pouvoir. Et comme une hallucination, il est halluciné, non? Les yeux ouverts, le temps se étire dans ça c'est le troisième, il y a quatre niveaux dans l'opéra. Le troisième niveau, c'est justement le voyage où il a conçu il vient de concevoir ce projet fou à travers ce beau jeune homme, ce projet fou. Donc la réalité qu'on voit, c'est un peu c'est son hallucination en fait, non? Parce que après, dès que le fou projet de conquérir la ville de Paris et le pouvoir, il crache avec la véritable vérité, et ça commence les grands problèmes.
Et aussi, on pourrait pousser plus loin en disant comme ça que le bagnard est le dernier des hommes, mais en même temps, il recherche le premier des hommes.
Ben, le premier dans une fantaisie très naïve, non? Parce que justement, ça c'est l'ambiguïté, non? C'est de avoir rêvé des utopies égalitaires, de fraternité, d'égalité, à un moment donné, être tellement déçu, mais on a quand même des énergies énormes, parce que Vautrin, c'est le seul être vivant dans cet opéra. Et les autres sont des marionnettes, en fait, non? Ils sont complètement vidés. Et lui, il a une force incroyable, mais il ne sait pas comment l'utiliser. C'est exactement comme aujourd'hui. Les utopies sont disparues à travers la terreur à son époque. Aujourd'hui, la terreur, on peut dire métaphoriquement, c'est tous les jours. Parce que la manipulation et le vol d'identité, pour tout le monde, c'est quotidien. Non? C'est vraiment une violence permanente contre l'individu. Et donc, déçu par l'absence d'utopie comme on est aujourd'hui, il décide de profiter de toute sa force et toute sa connaissance à son profit. Donc, il se lance dans un individualisme total. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes gens, ils sont trop faibles. Ils n'ont pas une identité. Ils n'ont pas la force. Ils sont manipulés et ils finissent pour se suicider. Et lui, il a perdu le pari, mais il arrive, il a les moyens, il a les outils pour se recycler, coup de théâtre, parce qu'il était le chef de la corruption et des trois bagnes, et il devient chef de la police. Donc il arrive à se recycler, il se met en espèce d'uniforme qu'il intègre dans la masse, et il termine disant, allez, la haine fait vivre, allons au travail, comme ça. Et il disparaît. Il rentre dans la masse, encore une fois, à la fin. Mais qui est ce type? On ne sait pas. Il pourrait être assis à côté de nous. Et il y a aussi peut-être, si on veut le voir, si on ne veut pas, on ne le voit pas, mais il y a aussi peut-être une allusion au terrorisme, peut-être. C'est un peu le mal, c'est pour ça que je dis, unité, oui, disons, au niveau de la pièce, de l'œuvre, oui, et, apparemment, il y a une chute de tout le monde, en incluant l'aristocratie et les gens qui ont le pouvoir, dans le noir de la conciergerie, où Herrera était, et le beau jeune homme aussi était arrêté dans la cellule. Donc tout le monde tombe dans cette espèce de noir inquiétant.
Et Rastignac?
Et Rastignac, c'est un gagnant dans la société parce que il se transforme en esclave de grands financiers. Donc il est organique au système, il devient organique au système. Il s'adapte, donc il n'est pas arrivé, il n'a même pas essayé de se planter dans la société comme une référence différente. Il a suivi le pouvoir, il est devenu un plus grand spéculateur et voleur, comme il dit, de la veuve et de l'orphelin, et c'est-à-dire Nucingen, le grand financier alias Rothschild. Et donc, pour nous, il est un corrompu, Rastignac, qui s'est adapté. C'est un jeune de succès, entre guillemets, parce que, pourquoi? Parce qu'il est devenu l'assistant de Berlusconi ou de Trump. Bah, si on parle, c'est ça, c'est le succès, ça marche pas. Mais, oui, par rapport à l'autre qui se suicide, évidemment, il a eu au moins cette espèce d'astuce de comprendre où était le pouvoir, de s'adapter. Mais c'est pas une solution du tout, évidemment.
Dernière question. C'est un requiem, cet opéra?
J'ai pas compris.
Un requiem, cet opéra. Est-ce que c'est vécu comme l'œuvre, le négatif?
Je me mets à disposition comme symptôme aussi. Et donc, j'essaie d'enregistrer ce que je vis. Mais, possiblement, la seule chose que je peux essayer de faire, c'est d'être intellectuellement honnête. Ça, je peux le faire. Après, si je me trompe ou dire que j'ai des solutions, je peux pas dire. Je me pose la question tous les jours. L'enseignement, sûrement, c'est une des possibilités que, évidemment, c'est un processus très lent, l'enseignement, je veux dire. Mais au lieu de parler 30 secondes à 40 millions de personnes à travers la télé, là, on parle des choses très profondes pendant longtemps avec très peu de personnes. Donc, on bouleverse le terme. Et puis, bien sûr, tout ce que je viens de dire à propos de l'esthétique et de langage, c'est de se prendre la responsabilité d'établir un pacte narratif quelconque, même si marche ou marche pas, et si ça marche aux différents niveaux pour des personnes différentes, pour des gens différents, c'est pas un problème, mais c'est cette changement de perspective de la part de notre part qui est un risque et qu'il faut prendre. Sinon, moi j'ai pas de formule, mais déjà le fait de voir hier soir un public de très jeunes qui bourraient le théâtre, qui savaient rien même de Balzac, sans parler même de la musique contemporaine. C'était de la musique dans un opéra que tout le monde connaît, et beaucoup parmi eux, probablement, ils n'avaient jamais vu Garnier. Ils étaient pris. C'était communiste, très complexe, mais j'ai regardé les expressions des visages. Ils étaient un peu, même un peu incrédules, non? Ils étaient là et regardaient, disant, tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais quand même, il y a quelque chose qui me tient assis. Et ça, pour moi, c'est une preuve très importante. Non? C'est un petit pas, mais quand même, on va travailler. Et justement, je reviens pour terminer avec les deux territoires de la musique. Il faut trouver l'équilibre entre le territoire des forces organiques comme de lava, comme une tempête, d'un côté, des forces chimiques organiques, un conflit d'un côté, et de l'autre côté, cette pression sémantique qui existe. Elle est là. Et donc, plutôt que la subir, je préfère de la considérer comme un paramètre musical et de l'utiliser pour essayer de trouver un équilibre entre tête et corps.
Merci Luca.
Merci à vous.